avec beaucoup de plaisir que je suis devant vous. Je ne dirai pas grand-chose, sinon, bien sûr, pour l'opinion de la région parisienne, mais pour moi, nous venons de la Guadeloupe. Et nous servons le Seigneur depuis quelques années en France, Nadia et moi. Et bien sûr, une partie de notre ministère se déroule en Guadeloupe, où nous travaillons avec des missionnaires non permanents ou des professionnels associés qui travaillent sur un certain nombre de projets avec nous, dont l'objectif est toujours le témoignage, l'évangélisation, donc avec des femmes, avec des jeunes et avec aussi des hommes sur d'autres types de projets. Alors je ne vais pas dire grand-chose me concernant, puisque je veux réserver ce temps pour l'intervention, et après, bien sûr, en coulisses, je peux dire d'autres choses. Mon intervention s'articulera autour de trois axes principaux. Il s'agira de montrer d'abord à travers des constats sociologiques simples, ordinaires, que notre société contemporaine et moderne est composée d'individus dont les engagements sont multiples. Moi-même, je suis pasteur, je travaille comme missionnaire avec Agapé France. Je suis également président d'une école et président de cette association. Je fais le va-et-vient et les personnes qui travaillent aussi avec moi sont engagées dans différentes choses. Une partie de mon temps, c'est en France, une autre partie, c'est en Guadeloupe. Donc, quelquefois, quand je retourne en France hexagonale, pour ne pas vous offenser, je laisse ma tête une partie de moi là-bas, etc. Donc, on est engagé dans différentes choses. Le deuxième thème, c'est mettre en évidence que la diversité de ces engagements, professionnels ou autres, et des appartenances multiples produisent donc des individus dont la vie est écartelée. Des individus pressurés, on pourrait dire, souvent déséquilibrés, en proie au surmenage ou à l'épuisement professionnel, que le sociologue Ehrenberg a bien identifié dans son livre « La fatigue d'être soi, dépression et société ». Enfin, je terminerai, si on a ce temps, pour parler de la place, des valeurs ou des priorités de notre vie comme solution d'équilibre à notre situation d'homme écartelé. Ce thème pourrait nous donner, on pourrait être tenté d'aller du côté de la sociologie générale et de tomber dans les grandes théories. Je ne suis pas sûr que cela va nous aider, en tout cas cela ne va pas m'aider, mais je vais dans le sens de ce que je maîtrise le mieux. C'est donc ce que je vois autour de moi. Donc on fera ce qui est visible, ce qui est concret dans mon engagement dans l'église où je suis. C'est donc de la sociologie ordinaire, spontanée, que nous ferons. Nous porterons, comme dirait le sociologue Michel Maffesoli, notre attention sur cet espace du quotidien qui se dérobe souvent aux concepts et aux idéologies lourdes. Il s'agit pour nous de comprendre à travers l'observation des petits faits de la vie quotidienne, de la vie des chrétiens, la complexité et les tensions d'une société de plus en plus soumise aux évolutions sociales et à la consommation, aux loisirs, et qui nous confronte bien sûr aux limites même de notre nature humaine. J'évoque donc le premier point en invoquant un aspect important de la vie de l'Église qui nous concerne. Il s'agit de la dimension pastorale, c'est-à-dire les visites, mais aussi les réunions de conseil d'Église ou presbytérales ou encore les comités, les ministères dans nos Églises. Une des choses que j'entends de la part des collègues pasteurs, ils font deux constats majeurs. Le premier, c'est la difficulté pour beaucoup de membres à s'impliquer de manière concrète et durable dans la vie de l'Église locale aujourd'hui. Le deuxième, ce sont toutes les complications ou les obstacles qu'on peut rencontrer avec certains membres, mais aussi avec certains collègues pour nous. Certainement pour une visite pastorale ou avec certains collègues, membres de conseil, pour pouvoir planifier une réunion. Les agendas des uns et des autres sont souvent surbookés et trouver une date pour un rendez-vous entre les membres du conseil, cela devient quelquefois un casse-tête chinois, mais il n'y a pas de chinois parmi nous, une vraie gageure, un défi. Et nous remarquons aussi souvent que les raisons avancées par les uns et les autres sont les raisons légitimes. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser, mais d'observer comment les choses se passent. Pardon. Ces difficultés sont liées soit à la vie personnelle des membres, soit à leur vie professionnelle ou familiale. Je pense à plusieurs situations récurrentes, anciennes et récentes dans le cadre des visites. Souvent, finalement, en réfléchissant, je me rends compte que c'est un peu difficile. Et c'est important pour nous de parler de ces choses parce que cela nous montre, nous rend plus sensibles aux membres d'église, aux membres de nos églises, à nos frères et sœurs. Par exemple, j'ai essayé de prendre un rendez-vous avec deux jeunes femmes de notre église. Elles sont responsables du groupe de jeunes. C'était extrêmement compliqué. Et cela a pris 2 mois pour qu'on arrive à trouver une date. Un jour qui leur convenait. En effet, ces deux jeunes, bien engagés, étudient, travaillent et s'occupent en même temps des jeunes de notre église. Ils ont un ministère parmi les jeunes, un ministère que nous apprécions. Mais quand il s'agit de les rencontrer pour discuter, on se rend compte que c'est difficile. En effet, la dernière fois, quand nous pensions que c'était possible, l'une d'entre elles a prolongé son voyage dans un pays d'Afrique. Alors on s'est demandé s'il fallait faire la réunion ou pas. Et on a dit on va se rencontrer quand même. Alors que je me rends sur Paris, je reçois un SMS me disant « Excuse-moi Jean-Claude, je ne peux pas venir au rendez-vous car je dois participer à une manifestation cet après-midi pour défendre mon boulot, mon futur boulot, mon travail, pardon. » Problème personnel et en même temps problème professionnel. Une autre illustration de cette vie contraignante où s'entremêlent et s'affrontent les différentes sphères sociales s'observe également à travers la vie que mène un couple fidèle d'origine africaine. Ce sont des gens sérieux, ce sont des gens engagés, ils aiment le Seigneur, ils ont 2 enfants et ils ont commencé à pratiquer du sport de haut niveau très tôt. Leur existence comme couple et parents n'est pas facile et leur souffrance spirituelle est palpable parce qu'ils voient grandir leurs enfants et ils ont des difficultés. Ils ont fait ils étaient aides-soignants, ils ont fait des études pour être infirmiers et ils travaillent tous deux dans un hôpital psychiatrique dans la région parisienne avec des horaires de nuit et on dirait familièrement ils bossent beaucoup et leur vie professionnelle est très pénible. Et leur laisse très peu de temps pour autre chose. Peu de dimanches disponibles. Vous comprenez, à partir de ce que je dis, ce sont des gens qui se croisent dans leur maison. Ils ont beaucoup de mal à développer une vie d'église normale, commune avec nous. Lorsqu'il s'agit de trouver une date pour participer conjointement à l'activité de l'église, il faut qu'ils agencent leur agenda. C'est difficile pour eux de donner du temps pour un groupe de quartier et c'est aussi difficile le dimanche. Par exemple, à la suite d'une visite pastorale, nous avons convenu ensemble d'avoir une fois par mois une étude biblique. Tous les jeudis, on doit se rencontrer. Une fois par mois, le jeudi. À trois reprises, au moment où on s'apprêtait à partir, Nadia et moi, ils ont annulé. Pourquoi ils ont annulé? Parce que un fils qui fait du sport en Italie les a appelés pour qu'ils aillent le chercher à l'aéroport d'Orly. Donc, voilà une situation assez difficile. Et j'ajoute que ces personnes immigrées ont des rêves personnels, ont des préoccupations économiques. Ils se rendent souvent en Afrique car ils sont en train de construire des maisons pour la location. Leur maison en France est aussi en plein réaménagement et c'est le mari qui s'en occupe. Quand ils ont un dimanche de libre, c'est la vie familiale qui prend le dessus. Quand ils doivent se rendre en Italie, comme j'ai dit, regarder leur fils jouer dans un grand club de football. Donc, voilà des vies, une vie compliquée. Et quand je les rencontre, en dehors du fait que notre sœur a été malade, je me rends compte que ce n'est pas évident pour ces deux personnes. La femme, elle avait des activités dans un comité, puis s'occupait des repas. Elle a pris du recul. Et le mari qui présidait et qui s'occupait également des jeunes a aussi pris du recul. On se rend compte que dans cette vie, il y a plein de choses qui rendent une vie d'église difficile. Il y a quelques années, je suis arrivé à l'église de Villeneuve et la réunion de prière était difficile. Avoir une réunion de prière mensuelle, c'est même pas hebdomadaire. Et nous avons convenu ensemble d'avoir la réunion de prière une fois par mois et tout en essayant d'avoir la réunion dans d'autres groupes de quartier. Nous avons dit le mieux, c'est d'avoir cette réunion de prière le vendredi, puisque certaines personnes ne travaillent pas le samedi. Finalement, on a dû changer, parce qu'après, certains disaient, mais il y a le pont, on préfère partir. Voyez, donc c'est la vie. Ici, c'est la vie familiale, mais aussi la vie personnelle. On veut partir en week-end, si vous voulez. Ça, c'est des cas que nous avons, parce que notre église, elle n'est pas locale, elle est régionale. Donc, les gens viennent de loin, donc c'est difficile de gérer tout cela. Alors, récemment, nous devions avoir une réunion de prière et j'ai un problème de voiture. Il y a un petit noyau dur qui fonctionne assez bien. J'ai dit, j'envoie un SMS pour leur dire que ma voiture est en panne. Je suis prêt à prendre le bus, je l'avais déjà pris bien avant. Mais ce que je veux éviter d'arriver, que le noyau dur ne soit pas là, quoi. Donc, c'est ça. Et les réponses que j'ai reçues sont des réponses très elles sont intéressantes. Une personne me répond par des SMS. Pas de certitude de mon côté. Je ne pense pas être là, parce que c'est une personne qui travaille. Je parle de personnes fidèles, je ne dis pas des gens qui sont à la périphérie de la vie de l'Église. Je ne serai pas à la réunion ce soir, mais peut-être ma femme. Est-ce qu'elle a eu ton texto? Alors je vérifie. Sa femme me répond, je ne viendrai pas ce soir à la réunion de prière, je privilégie la soirée à Hautefeuille avec la comédie musicale qui intéresse ma fille. En effet, nous avons appris un peu tard cette soirée de l'aumônerie et vu l'enthousiasme de notre fille à aller voir des jeunes de son âge présenter un spectacle, je me suis dit qu'il fallait que je l'y conduise. Mais comme j'avais encore des choses à faire pour le mariage, donc on avait un mariage de samedi d'après, et que je ne pouvais pas bloquer les deux soirées, j'ai fait un choix. Et ma fille était ravie de ce qu'elle a vu et entendu. Le Seigneur continue son œuvre en elle. Un autre couple répond, il est possible qu'on vienne si nous ne rentrons pas trop tard du travail. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé la réunion de prière. Parce qu'on ne pouvait pas maintenir la réunion de prière. Il n'y avait aucune certitude. Et je vous dis que je parle de là de personnes qui sont fidèles, qui persévèrent. Quand je dis fidèles à la réunion de prière, finalement, qui essaient de maintenir cette réunion de prière. Il y a 3 mois, nous avons eu un parcours alpha dans notre église. Ça s'est très bien passé. Mais pour mettre en place ce parcours alpha, cela a pris du temps. 2 ans pour pouvoir trouver un agencement avec qu'est-ce qu'on fait si on a le parcours alpha, comment maintenir la réunion de prière et comment maintenir les groupes de quartier avec des gens qui travaillent. Le parcours alpha, ça s'est très bien passé, mais ensuite il fallait avoir une réunion de bilan. Et nous n'avons pas arrêté d'échanger des emails pour trouver une date pour que les 12 personnes qui ont accompagné ce groupe puissent être ensemble. Vous voyez, je donne des exemples, et notre ami Koro m'excusera, à l'africaine, peut-être, sans plan, peut-être, vous allez dire, sans ordre, enfin, c'est un peu comme le ciel étoilé. Mais on voit un peu le tiraillement des gens. Un couple bien engagé dans notre communauté vit souvent des tensions et des tiraillements liés au travail du mari. La femme est membre du conseil, coordonne le ministère de l'école du dimanche et supervise également la commission des repas. Son mari aussi est très actif et fait partie des présidents de culte. Présent aux réunions de prière qu'il a supervisées pendant 2 ans, ils ont 2 enfants bien engagés dans les activités des jeunes et des présidences des cultes aussi. Ce qui me frappe le plus souvent dans la vie de cet homme, c'est la tension, c'est le tiraillement en permanence entre la vie de famille, la vie professionnelle et la vie de l'Église. Ses conditions de travail sont pénibles, surtout en hiver. Et il arrive que souvent, après avoir accepté une responsabilité en coulisses, comme il me dit, quand j'ai accepté cette tâche, je ne savais pas que j'étais d'astreinte. Et du coup, ça lui met de la pression. Et on peut lire la pression sur son visage, entre sa fidélité à sa vie d'église et en même temps son travail. Le dernier exemple, ou peut-être l'avant-dernier, c'est quelqu'un qui, dans notre église, a de grandes responsabilités. Il est directeur d'un établissement de santé. C'est quelqu'un que j'admire et pour qui j'ai énormément de respect. C'est un pilier de notre église. Il prêche une fois par mois. Il préside le conseil 1 ou 2 fois par mois. Il est le trésorier de notre association diaconale. Il assiste 1 fois par mois à un groupe de quartier. Mais son travail est prenant. Mais son dévouement est extraordinaire. Il ne se plaint jamais, mais je sais que son travail lui demande beaucoup et qu'il existe de grandes responsabilités. Et souvent, quand nous sommes en réunion de conseil, je le vois regarder constamment son téléphone. Vous savez pourquoi? Écoutez sa réponse. Je suis d'astreinte. Quand le téléphone sonne, il nous dit « Excusez-moi, je dois répondre, il sort pour régler une situation quelconque. » Récemment, on se dirigeait, il y avait une réunion interconseil entre Châtenay et La Morlaix, et on roule tranquillement, un samedi après-midi. Tout à coup, le téléphone sonne. Il me dit « Excuse-moi, je dois répondre. » Alors, bien sûr, via Bluetooth, pour notre sécurité, il connecte son téléphone à son fil, etc. Et je me rends compte que la conversation est lourde. Car il s'agit d'une personne qui occupe des fonctions syndicales, la personne qu'il appelle, et cette personne doit lui dire que je me suis trompé en donnant une dose de médicament, la dose qui ne convient pas à un malade. Et ce qui est frappant, il répond, il pose des questions, et je vois qu'il doit aussi, il doit gérer. On va à une réunion de conseil, et voilà, en route, il doit gérer une situation professionnelle. Et en même temps, il prépare le mariage de sa fille. Plus loin, je prends un exemple de la Guadeloupe. Je suis en contact avec un jeune homme, un jeune frère plutôt. Ça fait longtemps qu'il aimerait suivre une formation théologique. Il s'est préparé, on l'a rencontré, on a discuté avec lui. C'était une session qui commençait le 18 et se terminait le 22 avril. Et je reçois ce courrier. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est avec de profonds regrets que je vous annonce mon désistement de cette session de formation. Pour des raisons familiales et financières, je ne suis pas en mesure d'assister à cette formation dans des conditions favorables. Qu'est-ce qui l'amène à trancher? Ce n'était pas forcément les raisons financières, c'est les raisons familiales. Il a 2 enfants et après avoir fait des plans, il se rend compte que c'est difficile pour lui d'avancer, de suivre cette formation. Frères et sœurs, je pourrais multiplier à l'infini des situations de ce genre ou quotidiennement, constamment, pour trouver une date pour une visite est difficile. Un rendez-vous fixé depuis très longtemps est annulé pour une raison familiale, une raison personnelle ou professionnelle. Ce que je viens de décrire ici, c'est la vraie vie, c'est de la sociologie narrative, c'est de la vraie vie, c'est ce que nous vivons. C'est la vie mouvementée, écartelée, fragmentée, pressurée de beaucoup de nos contemporains et de membres de nos églises, engagés, de personnes fidèles, et où on se rend compte que la vie de ces personnes, eh bien, elle est compliquée. Et en même temps, ce sont des personnes sur qui nous comptons dans nos églises. Enfin, tout le monde n'est pas artiste, si vous voulez, dans une église où on est tranquille. Tout le monde n'est pas avocat. Tout le monde n'a pas un travail qui est facile aujourd'hui. Les exemples que je viens de donner de la vie ordinaire reflètent ce que la vie dans notre société moderne, où nous subissons les tiraillements et les tentations de cette société de consommation et de divertissement. Mais aussi, et on peut dire que souvent c'est pour des causes nobles, le désir de s'épanouir en faisant du sport, prendre des cours de danse. Les engagements de certains créent des conflits chez eux, mais aussi dans des choses que nous voulons réaliser. Ces dimensions importantes de notre vie demandent du temps, voire beaucoup d'investissement pour les construire et les identifier. Ce qui est en jeu ici, c'est la question de la gestion du temps, des priorités, mais également des tensions et des conflits qu'elles peuvent provoquer dans notre vie, tant personnelle que professionnelle, tant familiale qu'ecclésiale. Cela requiert maîtrise de soi et sagesse pour vivre dans ce monde présent. Il y a plusieurs questions sous-jacentes. Comment concilier dans une vie humaine toutes ces facettes de l'existence, ces engagements? Comment combiner ce qui relève à la fois de notre vie privée et personnelle et de notre vie publique et collective à travers notre engagement familial, professionnel et ecclésial? Quelles sont nos priorités? Comment faire face aux tensions que suscitent tous ces engagements qui sont souvent, comme je le dis, des engagements légitimes? On voit que notre sujet nous place d'emblée face à des réalités fondamentales et éminemment complexes qui touchent la vie de millions d'individus autour de nous. Et cela n'est pas sans souffrance non plus. Cela nous concerne ainsi que la quasi-totalité de nos concitoyens. C'est un thème qui nous conduit à prendre en compte les évolutions sociologiques et économiques de notre société moderne et technicienne, qui sont à la fois ce qu'on pourrait dire une société de loisirs, mais aussi de divertissement, donc de consommation, de surconsommation. Autrement dit, sociologiquement, notre mode de vie est lié à la consommation, à l'économie et aux loisirs. J'aimerais faire, à partir de tout ce qui vient d'être dit, je l'ai peut-être dit, mais j'aimerais maintenant le dire d'une autre manière. Vous savez, les Antillais, ce sont des conteurs. Donc, quand ils parlent, ils n'ont pas un endroit fixe, mais ça tourne, quoi, si vous voulez. Ça tourne. Si vous lisez les Chamoiseaux, si vous les Noirs glissants, c'est notre façon Qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, on peut observer, et là c'est factuel, quand nous parlons de la vie quotidienne, nous pouvons mettre en lumière, pardon, trois faits sociologiques importants et qui sont incontestables de la vie moderne, contemporaine. Le premier, c'est que vivre aujourd'hui, c'est vivre sous tension, ou c'est vivre avec des tensions intérieures. On le voit même le dimanche quand les gens arrivent, Les personnes sont préoccupées parce que c'est des tensions, si vous voulez. Le second fait, c'est qu'on peut dire que, et c'est aussi lié, nous voyons que nous sommes dans une société, on pourrait dire, malade, mais atteinte du syndrome de l'écartèlement. On est écartelé. Ça, c'est ce que nous pouvons voir. Et quelquefois, malheureusement, l'Église contribue aussi à cela. Dans certaines églises, on met de plus en plus de pression sur les personnes et ils mènent une vie écartelée. La diversité des engagements et appartenances des hommes d'aujourd'hui produisent des individus dont la vie est écartelée. Ces deux points, les tensions intérieures et le syndrome de l'écartèlement, sont étroitement liés. Autrement dit, être plusieurs en soi aujourd'hui, c'est une situation contemporaine. Et un auteur nous dit, nous devons accepter notre vie multiple, complexe, inextricable, peut-être. Et il dit qu'on n'a même pas besoin de s'allonger sur le divan d'un psychanalyste pour comprendre cela. On n'a pas besoin de Freud, de Lacan, de Roudinesco pour comprendre que c'est ça notre vie aujourd'hui. Il y a donc en chacun d'entre nous, à des degrés divers, mille raisons d'être écartelé, mille tensions, mille rivalités. Et ce que je dis ne va pas, bien sûr, vous allez me dire, dans le sens de l'Évangile, qui nous parle beaucoup de la paix. Et bien sûr, si l'Évangile nous parle autant de paix, c'est aussi pour cela. Ça, c'est les choses que nous vivons. Toutes des forces qui agissent en nous. La troisième remarque, qui est en rapport avec nos micro-sociétés ecclésiales, concerne la question de l'engagement et l'implication des chrétiens dans l'église locale. Aujourd'hui, nous constatons que les membres d'église sont de moins en moins disponibles pour prendre des responsabilités dans l'église. Et cela se manifeste surtout au niveau des 25-45 ans qui cumulent souvent charge de famille, travail prenant. Et c'est assez compliqué pour les personnes qui ont entre 25 et 45 ans de s'impliquer davantage dans l'église. Ansel Gunn affirme « La vie professionnelle dévore souvent une bonne partie de notre temps aux dépens de notre vie privée. En outre, le peu de temps que nous réservons à la vie privée est à son tour occupé par les soucis de la vie professionnelle. Le travail mine ainsi notre santé et nuit à la qualité de notre vie. Les relations avec notre conjoint, nos enfants et nos amis en souffrent. » On voit qu'il y a ce que nous pourrions appeler le surinvestissement de la vie professionnelle qui laisse très peu de temps ou d'énergie à consacrer à d'autres relations. Et on peut dire aussi, il peut y avoir aussi le surinvestissement de la vie personnelle qui a aussi des influences sur la vie de l'Église ou aussi sur la vie familiale. Si les membres de nos Églises sont de moins en moins engagés, nous devons comprendre que l'Église a beaucoup de concurrents ou qu'elle est en compétition, que l'Église a des adversaires ou des rivaux, on pourrait dire cela aussi. Il s'agit bien souvent de tentations et d'attractions qui font mettre la vie de l'Église en arrière-plan. Si dans l'Église, les membres sont de moins en moins disponibles pour prendre des responsabilités, nous devons admettre la règle de Pareto a un sens, ce qu'on appelle les 20-80. 20% des membres font 80% des activités dans l'Église. Et à la longue, ces 20% aussi disent toujours les mêmes. Vous n'avez jamais entendu ça? Moi, j'ai déjà entendu ça. Si vous n'avez pas encore entendu ça, vous n'êtes pas dans une église normale. Moi, je suis dans une église normale. Et donc, voilà ce que disent les gens. C'est toujours les mêmes. Et souvent, quand il y a des projets qui sont prenants, on se rend compte que si on va trop loin, on risque de perdre ce reste 5% des 20%. Et cela demande qu'on s'adapte, qu'on ait une certaine sagesse. J'aimerais rapidement dire les causes majeures de ce que je viens d'expliquer sur les questions de d'écartèlement, de souffrance intérieure, de pression intérieure, de manque de disponibilité. Ce qui rend difficile ou qui affaiblit l'engagement des chrétiens dans l'église locale. La première, je l'ai déjà mentionné aussi, c'est l'éclatement des horaires de travail. Les gens travaillent le dimanche, travaillent le soir, travaillent la nuit, etc. Et cela rend difficile la participation à certaines activités de l'église. Monter une réunion avec des gens qui travaillent la nuit ou qui travaillent le dimanche, c'est compliqué. Et l'Église en souffre. L'investissement de plus en plus important demandé dans le monde du travail rend les gens moins disponibles pour prendre des responsabilités. On a évoqué les 25-45 ans. Ansel Gunn fait remarquer avec justesse que de nos jours, la relation au travail se caractérise par une attitude ambivalente. D'un côté, nous avons des gens qui souffrent parce qu'ils ne trouvent pas de travail. C'est le chômage pour ces personnes. Et du coup, cela leur fait perdre leur dignité. Mais de l'autre côté, nous avons ceux qui exercent une activité, mais où ils gémissent sous le poids du labeur. Parce que leur travail est pénible, leur travail est fastidieux, leur travail est asservissant. Un grand penseur français, Edgar Morin, alors curieusement, il m'est arrivé quelque chose avec Edgar Morin. Je reçois beaucoup d'emails, et pour moi, ensuite, je prends les adresses pour le travail que je fais en Guadeloupe. Peut-être que vous n'avez jamais encore fait ça, mais moi, je le fais. Et récemment, on vient de faire sortir un livre et j'ai envoyé, j'ai piqué les adresses dans les courriers que je reçois. Et je reçois une réponse d'Edgar Morin. Mais c'est son pote, c'est bien sûr sa messagerie qui dit « je ne suis pas disponible, etc. » Si vous voulez. Et ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, je n'ai même pas la chance de pouvoir rencontrer Edgar Morin. Et voilà que je tombe sur lui parce que quelqu'un m'a donné son email. Bon, bref, nous laissons Edgar Morin tranquille. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Le travail est soumis de plus en plus à une organisation systématique. Dans un laps de temps de plus en plus court, on est contraint d'atteindre des performances supérieures. Chaque minute est planifiée. On jauge le travail d'abord à ses résultats. La direction des entreprises fixe des objectifs à atteindre. Ces indices s'appliquent même dans les hôpitaux et les maisons de retraite. On prive ainsi de leur motivation ceux qui auparavant avaient le plaisir à prendre soin des vieillards et des malades. Tout tourne autour du dieu Mammon. » C'est pas Edgar Morin non plus cette citation, mais je vais dire que c'est toujours Anselm Wood. De l'argent, tout tourne autour de la rentabilité et des résultats. Nombreux sont ceux qui en pâtissent, qui pâtissent du surmenage et qui subissent le stress. Et voilà ce que dit Edgar Morin, c'était pas lui le premier. Il dit « L'hyper-compétitivité de l'ère néolibérale conduit à baisser les coûts, à accroître la productivité, à rationaliser le travail, à dégraisser, et il pensait à quelqu'un certainement, les entreprises ou les administrations, à accroître précarité et chômage, d'où la nouvelle souffrance au travail dans les offices et les bureaux qui s'est traduite en France par des vagues de suicides. Cette souffrance au travail ne concerne plus les seuls emplois précaires, elle s'étend aux emplois même les plus stables de la compétitivité généralisée, y compris les activités dites à statut des secteurs protégés. Le travail est difficile aujourd'hui. Deuxième cause, c'est l'influence ou la pression qu'exerce sur nous via nos propres besoins ou celui de nos enfants, c'est les loisirs. Nous sommes dans une société de divertissement. Et le divertissement, on peut voir le divertissement dans deux sens, c'est à la fois les loisirs, donc c'est le sens que nous utilisons de façon générale, tout ce que font les parents pour leurs enfants et tout ce que nous faisons nous-mêmes, donc en termes de loisirs, mais il y a également ce que Pascal appelle le divertissement au sens où on essaie de s'évader, si vous voulez. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être on en parlera, puisque le temps passe. Mais ce qu'on peut observer, c'est que les loisirs exercent aussi des pressions insidieuses à la consommation et à l'augmentation de nos attentes. Aujourd'hui, nous avons des loisirs et des vacances qui autrefois étaient réservées aux riches. Que dire ? Nous sommes tous riches aujourd'hui. Moi, je reçois sans cesse via Internet des possibilités d'aller en Espagne, d'aller à Marrakech, d'aller tel endroit, etc. Je reçois ça tous les jours, si vous voulez. Et imaginez des personnes qui se laissent prendre, si vous voulez, dans ces tentations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une place pour ça, mais c'est l'équilibre. L'augmentation de notre niveau de vie, c'est-à-dire de l'investissement au travail ou à la biactivité, réduit notre liberté et notre disponibilité. En fait, c'est le chat qui se mord la queue. Plus nous gagnons, plus nous voulons. Et l'équation est simple. Travailler pour gagner plus. Ça me rappelle un programme. On gagne plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va consommer plus. C'est un peu ça. Voici quelque chose d'intéressant. Par exemple, concernant les enfants, on a de plus en plus d'activités de loisirs pour les enfants. Et on ne se rend pas compte de la pression que cela exerce sur les parents. Par exemple, autrefois, faire de l'équitation, ce n'était pas donné aux enfants, à tout le monde, finalement, dans une famille. Maintenant, c'est possible pour les parents de faire cela. Vous emmenez vos enfants, au début, c'était le mardi. La première année, c'est le mardi. Vous êtes tranquille, si vous voulez. Mais si l'enfant est content, vous-même, vous êtes content, eh bien, finalement, il y a une deuxième année. Mais ça tombe quel jour? Un mercredi. Et le mercredi, qu'est-ce qu'il y a? Une réunion de quartier, ou une réunion de prière, si vous voulez. Et là commence soit une forme de tension. Et certaines personnes, quelquefois, vont dire non, ou d'autres vont mettre en arrière-plan la vie de l'Église. Ce n'est pas à moi de vous dire quelle décision prendre, mais j'évoque juste les situations que nous avons connues avec nos enfants, mais que je vois aussi autour de moi, finalement. On a une retraite d'Église. Et j'ai pensé que j'allais convaincre quelqu'un, mais les frères m'ont dit, si tu arrives à convaincre cette personne, eh bien, chapeau. Et j'allais peut-être même leur demander de me fournir un cadeau après. J'ai essayé et j'avais l'impression que c'était tout prêt. C'est finalement, et puis à la fin, le frère, il y a une personne avec qui, enfin la famille, il m'a dit, bon, écoute, il faut que je voie, parce que mon fils, il a une activité, le tel jour, il y a ceci, je vais voir, finalement. Il m'a dit, peut-être je viendrai le samedi et je vais partir le dimanche après-midi, c'est pour le lundi. J'ai dit, d'accord. Mais j'ai dit, bon, si vous venez pour les 3 jours, ce serait quand même mieux. Il m'a dit, d'accord, je vais voir. Après, il est venu, il m'a dit, non, c'est pas possible, parce que mon fils, il a cette activité tel jour. Mais en même temps, lui, il était écartelé, parce qu'il a un fils qui se développe dans la vie de notre Église, qui veut venir à la retraite. Et quand je l'ai vu dimanche, j'ai dit, je tente encore ma chance, que vous laissez. Bon, c'est mon job, je suis payé pour ça. Et j'ai été le voir gentiment, mais enfin, vous voyez les hésitations qu'on peut avoir avec... C'est pas, si les membres, les anciens et les autres me disent, si tu fais ça, tu as gagné, ça veut dire que tu as vraiment réussi quelque chose. Et il me dit, notre décision est prise, nous avons tranché familialement, on ne vient pas. Et c'était clair, il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas de la place pour un point pour nous, c'était fini. Voici une situation de tension où on voit le loisir. Et puis, je suis dans mon temps toujours, non?
À peu près, mais on arrive vers la fin.
On arrive vers la fin. Donc, un troisième point très rapide, une chose aussi, par exemple, quand il y a, j'ai observé par exemple pour la Coupe, la finale du Coupe du Monde ou la Coupe de France, si vous placez une réunion à ce moment-là, c'est mort. Mais des fois, vous avez une réunion qui est placée depuis très longtemps, si vous voulez, pas à ce moment, depuis un an, depuis 6 mois. Et il faut... Le pasteur, il doit, ou l'ancien, doit s'adapter à ce genre de situations qui sont des situations quand même difficiles. Troisième difficulté, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que ce sont des mangeurs de temps. Et ce sont aussi des concurrents potentiels à la vie de famille, mais aussi à la vie de l'Église. La multiplication des canaux de communication, on peut l'observer. Autrefois, on devait se contenter de communiquer avec ses proches en envoyant un courrier, le téléphone, les PTT. Aujourd'hui, on peut communiquer avec le monde entier par téléphone en illimité. Email, même quand on ne sait pas dire email ou email, mais WhatsApp, Skype, tout le monde. Moi, j'étais étonné. Une fois, j'ai été en Guadeloupe et mon petit frère me dit, et j'ai vu ça aussi chez d'autres personnes, maman a son téléphone portable. Hein. Elle me parle de ma mère, quoi, qui a son téléphone portable, etc. Et j'écoute et je vois autour de moi combien cela mange notre temps. Mange consomme du temps finalement. Et cela devient aussi un concurrent parce que tout est dans l'illimité. Rapidement, je termine puisque le temps est arrivé et je suis arrivé au bout. Il me semble que face à toutes ces choses, une des questions qui se pose, c'est la question des priorités et des valeurs. Beaucoup de personnes, même s'ils ne sont pas chrétiens, alors ils utilisent d'autres mots. Ils vont utiliser le mot spiritualité, si vous voulez. On fait du yoga, on fait plein de choses, si vous voulez. Nous, nous avons ces choses. C'est la question des valeurs, la question des priorités. L'évolution de la société moderne nous invite à la vigilance intellectuelle et au discernement spirituel, mais aussi être sensible à la vie des membres de notre Église et ne pas les embarquer dans toutes sortes de choses comme on voit dans certaines églises, dont on est content que ces églises grandissent, au prix de quelles souffrances, si vous voulez, dans la vie de ces églises. Nous devons faire des choix, et nous devons faire constamment des choix, et là, Paul nous dit clairement, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner, on pourrait dire, quelle est la volonté de Dieu, mais quelles sont les valeurs, quelles sont les priorités, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin, comme dit Élie, de discerner entre l'éphémère et le nécessaire. Et Paul nous rappelle un principe de discernement spirituel important. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer ou asservir par quoi que ce soit. Autrefois, comme je dis, le monde avait le téléphone des PTT. Aujourd'hui, on doit choisir son opérateur et son offre. Et nous avons besoin là aussi de discerner quelles sont nos priorités. Au milieu de toutes ces richesses, il est important de nous recentrer sur l'essentiel et d'apprendre à vivre de la simplicité. J'ai lu un livre de John Stott sur Disciple radical, je ne m'appelle pas le titre exact, mais c'est un livre que je recommande sur la vie simple, sur la simplicité. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais un mentor. Il m'a appris une chose et il disait souvent, Dieu d'abord, la famille ensuite et l'Église après. Et quelquefois, on confond Dieu et l'Église, ce qui n'est pas la même chose, même si le Dieu, son cœur bat pour son Église. Je termine avec cette citation pour nous qui avons pour ceux qui ont des enfants. J'ai lu ce texte qui ne m'a jamais laissé tranquille. Mon enfant est arrivé justement l'autre jour. Il est venu au monde de façon classique, mais il y avait des avions à prendre et des factures à payer. Quand il a appris à marcher, je n'étais pas là. Il parlait déjà que je l'ignorais et en grandissant, il disait « Je serai comme toi, papa. Tu sais, je serai comme toi. » Et le casse-tête d'être né dans une cuillère en or dans la bouche, le petit garçon est triste et l'homme dans une autre planète. « Quand entreras-tu à la maison, mon fils ? Je ne sais pas quand. Alors nous ferons des choses ensemble, tu sais. À ce moment-là, nous passerons du bon temps. » Ben, mon fils, a eu 10 ans, justement l'autre jour. Il a dit merci pour la balle de baseball. « Papa, allez, viens jouer. Pourrais-tu m'apprendre à lancer ?» J'ai dit aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Il a dit, c'est pas grave. Il a souri et en s'éloignant, il a dit, vous savez, je serai comme lui. Ouais, vous savez, je serai comme lui. Ben, il est rentré du lycée justement l'autre jour. Tellement homme, je n'ai pas vu m'empêcher de lui dire, je suis fier de toi. Pourras-tu t'asseoir un moment ? Il hocha la tête et dit avec un sourire, ce que j'aimerais vraiment faire, papa, c'est emprunter les clés de la voiture. À plus tard, s'il te plaît, je peux les avoir. Ça fait longtemps que j'ai pris ma retraite, mon fils est parti. Je lui ai téléphoné justement l'autre jour. J'aimerais te voir si ça ne te dérange pas. Il a dit, ça me plairait beaucoup, papa, si je réussissais à trouver le temps. Tu vois, mon nouveau boulot est harassant et les gosses ont la grippe. Mais sûr, papa, que c'est agréable de parler avec toi. Sûr, papa, que ce fut agréable de parler avec toi. Et quand j'ai raccroché le téléphone, il me vint à l'esprit qu'il avait grandi exactement comme moi. Mon garçon était simplement comme moi.